La lutte des classes. Selon Marx, dans l'histoire humaine, tous les phénomènes et événements sont déterminés par le mode de production des moyens d'existence. Ce ne sont pas les idées qui dirigent le monde, mais les superstructures déterminées par l'état social, à son tour déterminées par le rapport des forces sociales. L'histoire de toutes les sociétés humaines jusqu'à nos jours n'est que l'histoire de la lutte des classes, et Marx distingue dans l'histoire trois modes de production. L'esclavagisme, le féodalisme et le capitalisme.
N'oubliez pas, l'opium du peuple. Pour Marx, la religion est un produit social, le reflet d'une société et non le fait d'un individu. L'homme fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. Pour lui, elle joue donc un rôle éminemment social, celui d'opium du peuple, puisqu'elle promet le bonheur et laisse supposer un paradis possible. L'homme, en se résignant à être ce qu'il est sur terre, ne pense plus à améliorer son sort et en ce sens son rôle devient négatif. La religion doit donc disparaître. Pour que l'homme puisse exister, il doit être amené à nier l'existence de Dieu. L'athéisme est donc la reconnaissance négative de Dieu.
Par moments, les forces de production, qui sont un certain développement de notre niveau de connaissances techniques et une certaine organisation de travail en commun, entrent en contradiction avec les rapports de production qui sont les modes de propriétés existants. Les changements qui se produisent dans la base économique bouleversent la superstructure. Infrastructure et superstructure. Marx appelle infrastructure le niveau technologique, culturel et économique qui définit l'homme à un moment donné dans l'histoire. C'est le développement de ces structures qui permettent une évolution dans les rapports économiques. Les superstructures sont celles qui ne dépendent pas de l'économie, par exemple les idéologies, les types d'États, etc. Lorsque les superstructures s'érigent en infrastructures, se produit chez l'homme un renversement des valeurs appelé aliénation. Il n'est plus dépendant de l'économie, mais devient dépendant d'une superstructure. Pour Marx, c'est donc en s'attachant à des idées que l'homme s'aliène. Aussi, pour le désaliéner, puisqu'il n'est pas libre, il faut lutter contre toutes les superstructures par lesquelles le capitalisme s'exprime. Pour résumer, l'être humain entrevu par Marx n'est en fait que l'ensemble des rapports sociaux, autrement dit, n'est autre que la société. Les rapports sociaux sont à la base de tout, ils se distinguent en infrastructures et en superstructures, et les révolutions sont l'expression d'une nécessité historique et non d'un hasard.
Un peu de technique, les mots du marxisme. Aliénation, c'est la dépossession, la perte de soi dans un autre. Pour Marx, le fait de ne posséder ni moyens de production, ni moyens d'échange. Matérialisme dialectique. Il existe une matière en dehors de toute pensée. Cette matière est le fondement, par ses ruptures successives, de l'histoire, comprise comme la contradiction entre modes de production composés de l'infrastructure, du travail, des outils et de la superstructure, état, religion ou idéologie, et des rapports de production ou propriété qui donnent naissance à la lutte des classes. Plus-value, c'est la différence entre la valeur créée par l'ouvrier et le salaire qu'il reçoit. Selon Marx, plus elle est importante, plus l'ouvrier est en situation d'exploiter. Religion, c'est avant tout une création sociale. Valeur, c'est l'expression de la quantité de travail nécessaire pour produire une marchandise.
Nietzsche. Penseur isolé dans un XIXe siècle marqué par la souveraineté de la raison et le culte du progrès, Friedrich Nietzsche fut pourtant la conscience de son temps. Résumé dans son ouvrage le plus célèbre, ainsi par les Zarathoustra en 1885, sa philosophie est fondée sur le désespoir. Face au néant, l'homme doit s'attacher à surmonter sa condition tragique. C'est ainsi que prend corps le mythe du surhomme en voie vers le stade ultime du développement, l'enfant selon la théorie de l'éternel retour. Développé par la suite dans « Par-delà le bien et le mal » en 1886 et « La volonté de puissance », recueil de textes dû à sa sœur Sophie, un projet abandonné en 1888, sa philosophie prend aussi comme objet de départ l'art, la manifestation essentielle de la vie. Il est perçu selon une opposition entre l'art apollinien, plus statique et intellectuel, et l'art dionysiaque, qui est synonyme de jaillissement de la volonté. L'art apollinien s'illustre par la sculpture, la peinture, la littérature. L'art dionysiaque s'illustre par la musique. Ce thème est développé dans « La naissance de la tragédie » en 1871. La philosophie au XXe siècle. Le XXe siècle s'ouvre sur une révolution, celle de la psychanalyse. Désormais, les maux de l'âme sont objets de science. Dans le même temps, l'être est questionné par l'existentialisme après la remise en cause radicale de son statut lors de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale. L'émiettement du sujet humain concerne également au premier chef l'école du structuralisme. Freud. Né en Moravie en 1856, Sigmund Freud fait des études de médecine à l'université de Vienne, puis un stage à Paris dans le service du professeur Charcot, spécialisé dans les maladies nerveuses. Il oriente ses recherches vers l'aspect psychique de l'hystérie et affirme l'origine sexuelle des névroses. En 1899 paraît « L'interprétation des rêves », en 1904 « Psychopathologie de la vie quotidienne » et en 1905 « Trois essais sur la théorie de la sexualité ». Le premier congrès international de psychanalyse se tient à Salzbourg en 1908. C'est en 1923 que Freud définit la notion du « ça », du « moi » et du « surmoi ». En 1938, une fois l'Autriche rattachée à l'Allemagne hitlérienne, il doit s'exiler pour Londres, où il meurt un an plus tard. Parmi ses principales œuvres, on compte également « Sur le rêve » en 1901, « Cinq leçons sur la psychanalyse » en 1909, « Totem et tabou » en 1913, « Introduction à la psychanalyse » en 1917, « Malaise dans la culture » en 1930 et « L'homme, Moïse et la religion monothéiste » en 1939. La psychanalyse se veut une théorie de la méconnaissance et de l'illusion puisqu'elle part du principe que chacun d'entre nous est régi par des processus dont il n'est pas l'agent conscient. Tout comme les phénomènes naturels, les conduites humaines obéissent à des lois. Elles sont obscures, difficilement compréhensibles et saisissables et en grande partie inconscientes. Mais Freud en démontre les manifestations dans le psychisme grâce à l'interprétation des rêves, des lapsus, des oublis ou des actes manqués. Deux périodes ont précédé sa démarche. Une première qui doit beaucoup à Joseph Breuer, qui s'est intéressé à l'hystérie, notamment par le recours à la méthode cathartique, consiste à mettre le patient sous hypnose et à lui faire découvrir le pourquoi de ses symptômes. Dans la seconde, Freud cherche à pratiquer la catharsis sans hypnose et à favoriser une remémoration en invitant le malade à livrer ce qui lui passe par la tête. Ces recherches démontrent que les événements survenus pendant l'enfance ont de grandes conséquences dans l'inconscient. La personnalité se structure au contact du monde extérieur, le « ça » étant tout ce que la naissance apporte, le « moi » se constitue, renforcé par le « surmoi » qui est la conséquence de l'éducation. Freud est le premier à mettre au point un système permettant aux malades névrosés de rendre conscients les conflits inconscients. Par son expérience clinique, il complète sa connaissance de l'inconscient et détermine les rapports entre celui-ci et le refoulement. En se conformant aux règles sociales, l'enfant ou l'adulte se heurte à une censure et refoule sa libido, c'est-à-dire ses pulsions sexuelles.
Un peu de technique. Les mots de la psychanalyse. Acte manqué. Lapsus révélant les pulsions de l'inconscient. Ça. Pôle pulsionnel de la personnalité dont les contenus sont inconscients. Inconscient, ensemble des pulsions enfouies dès l'enfance et refoulées par la conscience. Rêves et actes manqués sont leurs manifestations. Libido, énergie des pulsions sexuelles. Moi, partie de la personnalité qui est en rapport avec le principe de réalité et qui défend cette personnalité. Névrose, trouble du psychisme par lequel se manifestent les pulsions qui n'ont pas pu atteindre le niveau inconscient. Œdipe. Manifestation chez l'enfant d'un sentiment amoureux pour le parent de sexe opposé, entraînant un conflit avec l'autre parent. Pulsion. Manifestation de l'inconscient dont le refoulement donne naissance au complexe. Rêve. Manifestation qui permet de réaliser le désir non avoué ou non accepté. Surmoi. Partie de la personnalité qui contrôle le ça et le moi, et qui provient de l'intériorisation des interdits. Transfert, sentiment reporté du malade vers son analyste. qui recrée la relation œdipienne initiale existante avec le père ou la mère.
Bergson. Né à Paris en 1859, Henri Bergson passe l'agrégation de philosophie en 1881. Sa thèse, Essai sur les données immédiates de la conscience, paraît 7 ans plus tard, et c'est en 1896 que les portes du Collège de France lui sont ouvertes avec Matière et mémoire. Il publie en 1907 L'évolution créatrice et quitte sa chaire en 1921. En 1932 paraissent encore Les deux sources de la morale et de la religion. Hostile au scientisme et au matérialisme, la philosophie de Bergson prend ses principales sources dans la mystique et le pragmatisme. Ses principaux concepts s'appuient sur l'intuition, la durée qu'il oppose au temps et l'élan vital d'où est issue la vie. Intelligence, instinct et intuition. Bergson se défie de l'intelligence qu'il oppose à l'instinct. La première est issue de l'évolution et est orientée vers la fabrication d'outils, mais elle est inapte à en saisir le mouvement. L'objet de l'instinct est la vie, la matière. Il est invariable et est une connaissance innée, ce que n'est pas l'intelligence. L'intuition chez Bergson est une survivance de l'instinct chez l'homme. Elle peut atteindre l'essence des choses guidée par la raison, voire l'absolu. Dans l'évolution créatrice, il dilate son intuition à l'univers et non plus aux seules limites de la conscience humaine. La théorie de l'élan vital qu'il y développe s'oppose aux mécanismes et aux finalismes qui sont incapables d'expliquer comment les espèces évoluent. La morale, la religion et le temps par l'expérience. Si dans l'évolution créatrice le problème de Dieu est à peine envisagé, il est nettement posé dans les deux sources de la morale et de la religion. La première source de la morale est fondée sur l'instinct et s'impose par la pression sociale. Dans cette morale sociologique, il existe des héros comme Jésus qui font éclater les cadres sociaux et créent ainsi une société ouverte, permettant une deuxième morale fondée sur l'aspiration. De même, il distingue deux types de religions, qui sont la religion statique, qui a un rôle social et a pour but de réconforter l'individu, et la religion dynamique, qui a sa source davantage dans une émotion que dans un dogme. Pour atteindre Dieu, Bergson s'appuie sur la foi mystique, celle des chrétiens lui semble être la plus profonde. Le mysticisme permet d'évoquer expérimentalement Dieu et son existence. De même, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, Bergson cherche à analyser non pas l'idée abstraite du temps, mais son expérience concrète. Il introduit la notion de durée et tente de transposer la métaphysique sur le terrain de l'expérience. Le seul temps qu'il soit possible de saisir est le temps personnel, la durée intérieure. Les deux réalités auxquelles nous sommes confrontés sont l'étendue quantitative, divisible, homogène, unique objet du positivisme, et la durée qualitative, fournie par l'expérience interne. Husserl. Fondateur de la phénoménologie, Edmund Husserl naît en Moravie en 1859, alors province autrichienne, et fait une carrière universitaire. Les dernières années de sa vie, il est radié de la liste des professeurs par les nazis arrivés au pouvoir en raison de son origine juive. En 1911, il publie « La philosophie comme science rigoureuse » et y expose les grandes lignes de sa pensée. Les annales de philosophie et de recherche phénoménologique sont constituées à partir de 1913, où paraissent tous les travaux de l'école. À sa mort, Husserl laisse derrière lui une masse énorme de manuscrits accueillis par l'Université de Louvain. Il est le fondateur de la phénoménologie. Son mot d'ordre était « revenons aux choses elles-mêmes », une façon de réagir contre les abus de la spéculation. Il explique dans « Les idées directrices pour une phénoménologie » en 1913 qu'il faut revenir à l'analyse de ce qui apparaît à la conscience. Sa philosophie est résumée en 1929 dans une série de conférences sous le titre de « Méditation cartésienne » dans lesquelles il affirme que la véritable connaissance passe par une intuition des essences, des formes absolues qui seules permettent réflexion et pensée. La méthode phénoménologique consiste à faire apparaître les lois fondamentales liées aux essences. La phénoménologie est ainsi placée sous le patronage de Descartes, voulant éliminer tout présupposé. Husserl regrette que la philosophie n'ait jamais pu faire aboutir ses prétentions à être une science. Pour cela, elle ne doit rien admettre qui ne soit fondé sur une évidence. La méthode phénoménologique est donc fort proche du doute cartésien, mais lui substitue la mise en parenthèse, l'épochée ou suspension de jugement. De cette épochée jaillit un cogito transcendantal, c'est-à-dire un sujet de toute expérience possible. Ce sujet transcendantal devrait être un sujet indépendant de tout contenu de conscience. Mais la conscience est toujours conscience de quelque chose. Descartes, selon Husserl, a trop vite expliqué. Le philosophe doit simplement, modestement, décrire. La phénoménologie est une description des expériences psychologiques, des structures psychiques qu'il nomme essence, non de ce qu'est l'être, mais de ce qu'est l'apparence, le phénomène. Heidegger. Élève de Husserl, auquel il succède à Fribourg-en-Brisgau, Martin Heidegger refuse que sa philosophie soit classée dans la philosophie existentielle, mais il s'inspire d'une méthode phénoménologique qui prétend non pas seulement atteindre des essences, mais l'existence. En 1927, il publie son œuvre majeure, Être et temps. Le personnage a été aussi contesté que contestable, qui voyait dans le national-socialisme un nouveau départ et adhéra au parti nazi. Son influence s'étend à la théologie, à la critique littéraire, à la psychologie. Ses principaux ouvrages sont « Qu'est-ce que la métaphysique ?» publié en 1929, « Lettres sur l'humanisme » publié en 1947 et « Qu'appelle-t-on pensée ?» publié en 1954. Comme Husserl, Heidegger considère qu'il y a eu un oubli de la métaphysique occidentale depuis ses origines et tout particulièrement par Platon et Aristote. L'être et les temps n'ont cessé d'être confondus, autrement dit ce qui est. Selon lui, toute notre époque s'est dérobée au mystère de l'être et il faut se remettre en quête de son sens. Son questionnement est de savoir qui est l'homme et de le questionner sur son être. L'essence de l'homme, du Dasein, réside dans son existence où « ex » est séparé de « zistance » par un tiret. S'il écrit de la sorte le mot « existence », c'est pour mieux marquer le caractère extatique de l'homme. Le lieu de la compréhension de l'être est la temporalité, c'est là la manière humaine d'être. L'homme n'est pas dans le temps, mais le temps commence et finit avec lui. À partir des années 1930, Heidegger effectue un tournant dans sa pensée et passe à une étude ontologique de l'être. La vérité est dans l'être lui-même. La tâche unique de la métaphysique est de penser cette vérité et de la faire accéder au langage. L'homme n'est fait que pour penser l'être, il n'est que le berger de l'être. Sartre. En 1924, Jean-Paul Sartre rentre à l'École normale supérieure. En 1945, il quitte l'enseignement et développe sa revue Les Temps modernes. À partir de 1950, il se rapproche du Parti communiste avec lequel il rompt en 1968. Son œuvre peut se décomposer en trois temps. Un temps phénoménologique qui s'achève avec la rédaction de L'être et le néant en 1943, une période existentialiste, le mot apparaît en 1945, et enfin une période dominée par le marxisme et l'engagement intellectuel dans les années 1950. Il laisse à la fois une œuvre de philosophe et d'écrivain, avec La nausée en 1938, Les mouches en 1943, Huis clos en 1945, L'existentialisme est un humanisme en 1946, Les chemins de la liberté en 1946, Réflexion sur la question juive en 1947, Les mains sales en 1948, Les mots en 1964 et L'idiot de la famille, publié entre 1971 et 1972. La philosophie sartrienne est née de la rencontre de plusieurs courants. C'est d'abord l'influence de la philosophie allemande, celle de Marx, de Heidegger et sa notion de Dasein, du cogito cartésien. Il refuse l'idée de fatalisme dans la destinée humaine. L'homme, pour lui, se construit librement. Même ne pas choisir constitue un choix. Sartre définit sa position comme un athéisme. L'existence n'est pas autre chose qu'un effort pour tirer les conséquences d'une position athée cohérente. Dans La nausée, Sartre présente son expérience philosophique de l'être. Elle consiste principalement à percevoir des choses, leur existence brute. C'est l'être en soi. Celui-ci est inexplicable, absolu, car il est sans cause, ne dépend d'aucun autre être. Par rapport à Dieu, il est incréé. L'être pour soi est le sujet. Il est impliqué dans toute connaissance. C'est un être qui semble avoir des rapports avec d'autres et avec lui-même. Si l'être en soi est identique à lui-même, l'être pour soi ne coïncide pas avec lui-même. Une fissure existe donc, comblée par le vide, le néant. La conscience essaye d'éliminer ce néant pour retrouver l'harmonie de l'être en soi. La révélation que fait Roquentin, le héros de la nausée, devant le marronnier de Bouville, est qu'une personne n'est pas construite sur un modèle dessiné d'avance et dans un but précis. Exister, c'est être là. L'homme confère librement son sens à la situation. La condition humaine, c'est l'expérience. Toute notre liberté est une conquête et elle est un néant dans le sens où elle est une œuvre à faire. L'homme est un projet. Sartre nomme sa doctrine humanisme car même si son pessimisme est proche de celui de Schopenhauer, il donne à l'homme pour tâche de trouver un sens à sa liberté. Auteur de la faille de son néant, il tente de la combler, de devenir un pour soi, en soi, et de se faire Dieu. Cette prise de conscience se fait sous forme de l'angoisse, car cette liberté est sans cesse sous la menace du regard de l'autre. La fameuse formule de huis clos « l'enfer, c'est les autres » montre le danger d'être enfermé dans une essence et de nous transformer en chose.
N'oubliez pas, la dent dure. Issu d'une famille à mi-chemin entre l'aristocratie et la bourgeoisie, précipitée dans le déshonneur par la faillite du grand-père, Simone de Beauvoir fut l'ardente avocate de l'existentialisme, incarnée par son compagnon Jean-Paul Sartre. Hostile à toutes les formes d'oppression, elle embrassa notamment la cause féministe et milita pour la libération des femmes. En grande partie autobiographique, son œuvre aborde le caractère concret des problèmes, comme le deuxième sexe en 1949, qui dénonce le sort réservé au sexe faible par la société traditionnelle. Ses principales œuvres sont « L'invité » en 1943, « Les mandarins » en 1954, « Pour une morale de l'ambiguïté » en 1947 et « La force de l'âge » en 1960.
Lévinas. Juif d'origine lituanienne, Emmanuel Lévinas a profondément été marqué par les écrits de Husserl et de Heidegger. Il contribue à faire connaître la phénoménologie en France dès 1930. Dans « Totalité et infini », essai sur l'extériorité en 1961, il exprime son rejet de la volonté totalisante, voire totalitaire, de la pensée occidentale. Se présente alors l'infini divin. Pour lui, l'expérience du vécu se trouve subordonnée à tout. L'une de ses autres thèses est que dans le rapport à autrui, toute relation devient une éthique, car avec autrui surgit le jugement. L'expérience fondamentale refuse de réduire l'autre au même et celle-ci nous engage en tant que sujet moral. Le visage d'autrui ne se ramène pas au visage physique, mais conduit à Dieu. Ses principales œuvres sont « Quatre lectures talmudiques » en 1968, « Le temps et l'autre » en 1980, « Éthique et infini » en 1982, « La mort et le temps » en 1992, « De Dieu qui vient à l'idée » en 1992 et « L'éthique comme philosophie première » en 1998.
N'oubliez pas, une conscience dans le siècle. Hannah Arendt est reconnue comme l'une des figures majeures de la pensée contemporaine. Née à Hanovre, en Allemagne, en 1906, cette ancienne élève de Heidegger s'exile en France de 1933 à 1940, avant de partir pour les États-Unis, où elle enseigne. On lui doit d'avoir approfondi des thèmes tels l'antisémitisme et le totalitarisme, l'activité politique, la modernité. Ses principaux ouvrages ont été traduits en français. « Les origines du totalitarisme » en 1951, « Conditions de l'homme moderne » en 1960, « Eichmann à Jérusalem », « Rapport sur la banalité du mal » en 1966, « La crise de la culture » en 1972, et « La nature du totalitarisme » en 1990.
Derrida. Jacques Derrida a articulé l'ensemble de ses travaux autour de la notion de déconstruction. Son œuvre a un retentissement considérable aux États-Unis. Il reproche au structuralisme de rester limité à une problématique du signe, elle-même rattachée aux postulats les plus classiques de la métaphysique occidentale. Entre 1967 et 1979, il publie trois ouvrages qui le rendent célèbre et dans lesquels il expose sa théorie sur la déconstruction. De la grammatologie en 1967, La voix et le phénomène en 1972 et L'écriture et la différence en 1979. Il y dénonce l'importance de la parole depuis Platon dans la pensée occidentale. Dans des ouvrages tels que « La carte postale de Socrate à Freud et au-delà » publié en 1980, il s'oblige à trouver une nouvelle façon d'appréhender le discours philosophique en prenant appui sur la psychanalyse et la linguistique. L'écriture, pour lui, appartient toujours au secondaire et a toujours été dévalorisée. La langue orale même appartient à l'écriture et cela entraîne l'irruption de la différence au sein du logos. L'écriture pourrait être un autre nom de cet écart. Ricoeur. Les 50 années de travail de Paul Ricoeur l'ont mené à une pensée fortement pénétrée par une philosophie morale et politique de l'action, intégrant le problème de la justice comme vertu et institution. Agrégé de philosophie en 1935, son premier itinéraire intellectuel lui fait découvrir la phénoménologie allemande. Avec le volontaire et l'involontaire, en 1950, il met en place une philosophie de la volonté dont l'aboutissement est « Finitude et culpabilité », publié en 1960. À partir de 1965, son sujet de réflexion se centre davantage sur une herméneutique des récits, exposée dans « Temps et récits », série d'essais qui comprend « L'intrigue et le récit historique » publié en 1983, « La configuration dans le récit de fiction » publié en 1984 et « Le temps raconté » en 1985. Dans son système de pensée, toute donnée immédiate de la conscience doit être soumise à une interprétation. Mais comment interpréter si ce n'est à travers des signes et des symboles? Il s'agit donc de restaurer l'intentionnalité de l'œuvre qui opère une véritable description du réel. Dans cette mise en valeur du conflit des interprétations, l'herméneutique devient philosophique. Les conséquences de celle-ci trouvent une application dans des champs aussi variés que la psychanalyse, l'historiographie, l'éthique ou la théorie politique.
Le saviez-vous? Les nouveaux philosophes. Sous l'étiquette des nouveaux philosophes sont regroupés les membres d'un courant de pensée né au milieu des années 1970. Désireux de rompre avec une certaine sclérose de la philosophie. Ils estiment que celle-ci est figée dans des débats entre spécialistes, cloîtrés entre les murs des universités, et ils veulent lui faire reprendre sa place centrale de débat d'idées dans la cité, en luttant contre les idéologies négatrices de l'homme. Le nouveau philosophe se veut en prise directe avec son monde, intervient pour analyser les conflits nationaux ou internationaux. Les principaux d'entre eux sont Bernard-Henri Lévy, auteur en 1977 de « La barbarie à visage humain ». André Glucksmann, auteur des « Maîtres penseurs » publié en 1977. Dans une perspective moins contestataire, André Comte-Sponville, avec « Une éducation philosophique » publié en 1989. Et Luc Ferry et sa pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain, publié en 1985.